C'est qu'aussi, il ne me paraît pas raisonnable, mon cher Socrate, qu'un homme qui agite cette question depuis si longtemps dise quelle est l'opinion des autres et ne dise pas la sienne. Te paraît-il plus raisonnable qu'un homme parle de ce qu'il ne sait pas, comme s'il le savait ? Non, Socrate, mais il peut proposer comme une conjecture ce qu'il croit probable. Eh quoi ? Ne vois-tu pas quelle triste figure fait une opinion qui ne repose pas sur la science ? La meilleure de cette sorte n'est-elle pas sans lumière ? Ceux qui, dans leurs opinions, rencontrent le vrai sans le comprendre, ne ressemblent-ils pas à des aveugles qui marchent dans le droit chemin ? Oui, Socrate. Veux-tu donc arrêter tes yeux sur quelque chose d'informe, d'aveugle, de boiteux, tandis que tu peux voir de belles, de brillantes images ? Au nom des dieux, Socrate, me dit alors Glaucon, ne t'arrête pas comme si tu étais déjà arrivé au terme. Nous serons satisfaits si tu nous expliques la nature du bien, comme tu as expliqué celle de la justice, de la tempérance et des autres vertus. « Et moi aussi, mon cher, lui dis-je. J'en serai satisfait, mais je crains bien que cela ne passe mes forces, et qu'avec toute ma bonne volonté, ma maladresse ne m'attire vos railleries. Non, croyez-moi, mes amis, laissons là, quant à présent, la recherche du bien tel qu'il est en lui-même. Vous exposer mon opinion dépasserait les limites de la discussion où nous sommes engagés. Mais je veux vous entretenir de ce qui me paraît la production du bien, sa représentation exacte. Sinon, passons à d'autres choses, si cela vous est agréable. Non, Socrate, parle-nous du Fils. Une autre fois, tu t'acquitteras en nous parlant du Père. Je voudrais bien pouvoir m'en acquitter à votre entière satisfaction, au lieu de ne vous offrir que l'intérêt de ma dette, comme je vais le faire. Recevez toutefois ce simple intérêt, cette production du bien. Mais prenez garde que je ne vous trompe involontairement et ne vous paye en fausse monnaie. Nous y prendrons garde le plus que nous pourrons. Explique-toi seulement. Reconnaissons d'abord la vérité de ce qui a été dit précédemment et en plusieurs autres rencontres. Je vais vous le rappeler. Quoi, Socrate ? Il y a plusieurs choses que nous appelons belles et plusieurs choses bonnes. C'est ainsi que nous désignons chacune d'elles. Oui. Et le principe de chacune, nous l'appelons le beau, le bien. Et nous faisons de même de toutes les choses que nous avons considérées tout à l'heure dans leur variété, en les considérant sous un autre point de vue, dans l'unité de l'idée générale à laquelle chacune d'elles se rapporte. Soit. Et nous disons des choses particulières, qu'elles sont l'objet des sens et non de l'esprit, et des idées, qu'elles sont l'objet de l'esprit et non des sens. Oui, cela est incontestable. Par quel sens apercevons-nous les choses visibles ? Par la vue ? Nous saisissons les sons par l'ouïe et par les autres sens toutes les autres choses sensibles, n'est-ce pas ? Sans doute, Socrate. As-tu remarqué quelle dépense particulière l'ouvrier de nos sens a faite pour la vue ? Pas précisément. Eh bien, remarque ceci. L'ouïe et la voix ont-elles besoin d'une troisième chose, l'une pour entendre, l'autre pour être entendue. De sorte que, si cette chose vient à manquer, l'ouïe n'entendra point, la voix ne sera point entendue. Mais nullement, Socrate. Je crois que la plupart des autres sens, pour ne pas dire tous, n'ont besoin de rien de semblable. Vois-tu quelque exception ? Non, Socrate. Mais, à l'égard de la vue, outre l'objet visible, ne conçois-tu pas qu'une troisième chose est nécessaire ? Que veux-tu dire ?